Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Débat d'orientation budgétaire et examen de l'ordonnance du 20 juillet dernier au programme ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé. Travaux supervisés par le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. La trêve scolaire rime-t-elle avec cours de vacances? Le sujet divise et le dossier du 20h fait une incursion dans les salles pour prendre le pouls des enseignements et interroger leur intérêt et utilité au moment où les apprenants sont censés se reposer. Parents et encadreurs s'expriment. Invité, professeur Marceline Djemeni Tiamabe, spécialiste des sciences de l'éducation. En sport, Jeux Olympiques Paris 2024, le Cameroun dit au revoir aux athlètes retenus. C'était au cours d'une cérémonie présidée à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Bienvenue au journal. Direction d'abord le Sénat. Les sénateurs sont réunis en ce moment dans leur hémicycle du Palais des Congrès. C'est dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Les membres de la Chambre haute du Parlement vont également examiner au fond l'ordonnance du 20 juillet 2024 en vue de son adoption. Les travaux sont coordonnés par le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. Pour d'autres précisions, retrouvons Julienne Paul Ngonon en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Bonsoir Julienne Paul.
Bonsoir Marie-Chantal Noir. Le Sénat a reçu de l'Assemblée nationale un projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 20 juin 2024, vous l'avez dit, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Le texte sera examiné tout à l'heure par la Chambre entière en vue de son adoption. L'ordre du jour appelle en ce moment le débat d'orientation budgétaire, un exercice qui se déroule en deux étapes. D'abord, la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget par le sénateur Thérèse Elumba Mojo. L'on retient de ce rapport que deux défis majeurs continuent d'interpeller les pouvoirs publics pour les trois prochaines années. Il s'agit, comme l'a souligné le ministre des Finances, de la bonne organisation du débat d'orientation budgétaire afin de garantir l'utilité et l'efficacité de cette activité. Cet exercice permet au Parlement d'intervenir en amont de la procédure budgétaire avant les travaux d'examen et d'adoption du projet de loi de finances initiale pour contribuer à veiller à la définition par le gouvernement d'une politique budgétaire saine, pertinente et efficace. Après la lecture du rapport, l'on est passé à la discussion générale. Les questions et les recommandations formulées par les sénateurs portent sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Le sénateur Jean-Marie Mama préconise un nouveau recensement des populations, accélérer et améliorer le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées telles que prévues par la loi. Les difficultés opérationnelles de la Compagnie nationale de transport aérien Camerco, le non-fonctionnement des péages routiers automatiques, les critères de sélection des projets d'intervention. Voilà autant de préoccupations des sénateurs au gouvernement, représentés ici par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé. À vous l'antenne, Marie-Chantal Noir.
Merci à vous, Julienne Paul Ngono. Du côté de l'Assemblée nationale, les représentants du peuple sensibilisés sur la sécurité incendie et la gestion des risques d'accidents cardiovasculaires. C'était au cours d'une séance d'information et d'échange organisée par le réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine traditionnelle. La rencontre à laquelle ont pris part le ministre du Développement urbain et de l'Habitat et des experts d'ici et de France étaient placés sous la supervision du vice-président de la Chambre, Kombo Gberi. Reportage, Pauline Deauville-Mendoza-Mbassi.
enregistre depuis un certain temps un taux élevé d'incendies au sein des administrations, dans nos marchés et ménages, causant d'importants dégâts matériels et humains. L'on note aussi dans notre pays les cas de décès liés aux accidents cardiovasculaires du fait d'une prise en charge tardive. Pour réduire ces cas d'incendie et autres accidents cardiovasculaires devenus légion, l'honorable Meng Mesui, coordonnateur du réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine traditionnelle, n'a pas eu d'autre choix que d'organiser cette séance d'information et d'échange sur la sécurité incendie et le management des risques d'accidents cardiovasculaires. Les échanges ont été tablés autour d'une dizaine d'exposés, dont celui du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, sur les difficultés liées aux voies d'accès et au nombre limité de bouches d'incendie. Le ministre Célestine Kechar-Courtès.
C'est une occasion pour moi de repréciser les dispositions de la loi 2019 et l'ensemble des articles qui transfèrent ces compétences de réhabilitation, d'entretien de la voirie urbaine aux édiles des villes. Mais fort de ce que les moyens sont limités, nous avons pu partager avec la représentation nationale l'approche travail en collaboration pour prioriser les voies à réhabiliter par le MINDU, les voies à réhabiliter par les édiles des villes par rapport à leurs moyens. Nos routes sont vieillissantes. Techniquement, avec le BCR que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous allons désormais aller vers cette approche innovante.
Le docteur en médecine et cardiologue Eloge Nyanyini a pour sa part entretenu l'auditoire sur le management des risques d'arrêt cardiovasculaire et prise en charge au sein des formations hospitalières. Pour l'expert en sécurité incendie venu de France, la solution à ces problèmes réside dans la prévention. Joseph Delay Tchakunga.
Nous sommes là pour travailler en collaboration avec les pompiers, mettre en place un réseau national de formation qui fera que tous les agents de sécurité dans tous les lieux publics, il y aura la présence des agents de sécurité incendie. Et cela va aussi de pair avec le secourisme. Il y a ce qu'on appelle le SSC, le secourisme. On va former des gens qui savent comment, par exemple, les massages cardiaques.
Les travaux étaient présidés par le vice-président à l'Assemblée nationale, l'honorable Kombo Berry.
Passé de 7 minutes, vous êtes sur le poste national de la CRTV. Le dossier du 20h s'intéresse ce soir aux enseignements destinés aux élèves pendant les vacances. Temps de repos et d'éveil dans la chaîne éducative. À Ebolo va dans la région du Sud, les parents inscrivent leurs enfants aux cours de vacances pour, disent-ils, leur éviter l'oisiveté et leur permettre de faire des révisions afin de relever leur niveau scolaire. Christian Blondel, Abia.
À Ebolova, le plaisir pour plusieurs parents de passer la journée avec leurs enfants en période de vacances n'empêche pas de les inscrire à des programmes d'études. Joseph Ntolo.
Après avoir passé 9 mois de dur labeur, il est important que ceux-ci se reposent. Mais alors, on peut leur accorder certains moments d'études, d'où l'importance de cette inscription au cours de vacances.
Des révisions effectuées en tenant compte du contexte de trêve scolaire où les apprenants ont besoin de détente.
Ces inscriptions ne doivent pas être accélérées comme pendant les cours ordinaires. On peut donc leur accorder de légères heures, environ 3 ou 4 heures, pour que la mémoire ne soit pas absolument off lorsque la rentrée scolaire sera arrivée.
Dans la foulée, quelques-uns saisissent l'opportunité de booster les performances en des matières précises. Oriane Bindan.
Pour ceux qui ont les problèmes en anglais, c'est mieux de chercher un répétiteur.
Raison pour laquelle les centres linguistiques et d'autres espaces d'acquisition de TIC sont bondés de vacanciers. Question de permettre aux cadets de se mettre à niveau. Ebolova, Christian Blondel-Abia, CRTV.
Occuper les enfants durant la trêve scolaire relève d'un véritable casse-tête pour plusieurs parents. Dans la région de l'Est, par exemple, et précisément à Bertois, nombreux sont ceux qui ont choisi d'inscrire leurs enfants au cours de vacances afin de combler leurs lacunes et les préparer à la prochaine rentrée scolaire. Luc Ouno.
Pour Martin Sombre, comme bien d'autres parents dans le soleil levant, les vacances sont une période où les enfants doivent se reposer et se divertir.
Dès que les enfants prennent les congés, je laisse d'abord mes enfants se reposer. Ils sortent un peu de cette pression-là.
En cette période de trêve scolaire, d'autres parents de la ville de Bertois ont choisi d'occuper leurs enfants avec les cours de vacances Et les raisons de ce choix sont multiples.
C'est bénéfique déjà pour l'enfant. Quand l'enfant part en congé à la rentrée, là, c'est comme si un plus un ne le connaissait même plus.
Ça va les occuper pendant ces vacances-ci. Pendant que certains prennent plaisir à jouer au ballon, eux, ils vont à l'école pour essayer de se mettre à niveau sur ce qu'ils ont échappé pendant l'année scolaire.
Et se préparer pour la rentrée prochaine, les cours de vacances répondent à cette logique. Les élèves qui y participent renforcent ainsi leur capacité afin de mieux affronter les défis de l'année scolaire à venir.
Je fais les cours de vacances pour m'améliorer dans les matières que je ne travaille pas.
Je fais les cours de vacances pour bien travailler en maths.
Mon problème, c'est en physique.
Je suis venu au cours de vacances pour pouvoir me former dans toutes les matières.
Je suis en train de faire les cours de vacances pour bien comprendre les cours.
Pour les enseignants, occuper les enfants pendant cette période de vacances est une plus-value. Léon Litoug.
Un exercice prépare les apprenants en activité pédagogique pour qu'à la reprise des classes, ils se retrouvent mieux.
Autant de stratégies mises en œuvre pour garantir à chaque élève le maximum de chances pour mieux entamer l'année scolaire à venir.
Au sein de la communauté éducative, les cours de vacances ont toujours suscité un débat avec de nombreux points de vue, les uns aussi importants que les autres. Si pour certains, les classes pendant les vacances sont nécessaires, pour d'autres, par contre, ces enseignements dispensés à une période consacrée au repos peuvent conduire à la saturation des apprenants et sont de facto contre-productifs. Luc, bienvenue au Nana.
Des génies, tous les parents souhaitent en avoir au sein de leur progéniture. Et comme dans n'importe quel domaine, celui des études scolaires exige de forts sacrifices de la part des parents comme de celles des élèves. Dans cette ambition, les promoteurs des cours de vacances sont des partenaires de premier plan. Les ministères en charge de l'éducation reconnaissent d'ailleurs leur importance tant ils sont une forme de remise à niveau des élèves ayant obtenu des résultats non satisfaisants, voire un tremplin pour une saisie parfaite des matières considérées comme bêtes noires. Pour les élèves intelligents, ces enseignements permettent d'anticiper sur le programme de l'année scolaire à venir mieux, d'avoir les prérequis exigés pour la classe supérieure. Malgré ces bienfaits des cours de vacances, il ne saurait être superflu de rappeler à la suite des experts que l'organisme et le cerveau de l'élève, comme celui de tout être humain, devraient se libérer des pressions. Et le moment indiqué reste bien la période des vacances au cours desquelles doivent être privilégiés le repos et les loisirs, véritables éléments catalyseurs de l'épanouissement de l'élève.
L'invité du 20h est une experte en sciences de l'éducation. Elle exhorte à une meilleure régulation des cours de vacances. Pour le professeur Marceline Ndjomeni Chamabe, les pédagogues, les parents et l'État doivent tous avoir à l'esprit l'impératif d'un développement harmonieux et complet des enfants. À cet effet, les cours de vacances ne doivent pas exclure d'autres activités ni omettre les temps de repos. Le professeur Marceline Ndjomeni Chamabe répond aux questions d'Agnès Sylviane Anjama.
Professeur Marceline Djemeni Chamabe, c'est un phénomène à la mode. Les enfants viennent à peine de recevoir leur bulletin, que tout de suite, c'est le retour en classe, c'est les cours de vacances. Est-ce un processus normal?
L'éducation est un processus continu. Chaque année scolaire est ponctuée de temps de répit pour les apprenants. Et pendant donc ces temps de repos, il est important que les apprenants puissent se livrer à d'autres activités que les activités activité seulement intellectuelle. Maintenant, lorsque l'école devient un processus ininterrompu, ça peut avoir des effets néfastes sur le développement psychologique de l'apprenant. Parce que l'apprenant a un chronomètre biologique où il a besoin de se développer sur tous les aspects. Alors, si nous forçons plus sur un aspect intellectuel, il y a des risques que les autres aspects de sa personnalité soient négligés.
En tant que pédagogue, vous êtes bien placé pour tenir ces propos-là. Ce n'est pas pour dire que ces cours de vacances ne sont pas utiles.
Nous ne disons pas que ces cours ne sont pas utiles. Nous disons que ces cours peuvent être mieux dosés. Par exemple, si nous prenons un cas où les enfants ont 2 heures ou 1 heure d'activité intellectuelle et après ils ont d'autres activités plus sociales, plus physiques et qu'il y a une forte combinaison de toutes ces activités-là, ça peut être intéressant pour le développement complet de l'enfant. Les parents peuvent très bien permettre aux enfants d'aller faire ces cours, mais les éducateurs doivent faire un bon dosage de ces activités pour laisser une grande place aux autres activités, le sport, les activités artistiques, parce que notre système éducatif tend désormais à être beaucoup trop intellectuel. Et du coup, vous avez des enfants qui ont le baccalauréat, mais qui ne savent pas utiliser leurs mains. Ils ne font pas du sport, ils ne savent pas vivre avec les autres. Ils ne connaissent pas comment on communique, ils ne connaissent pas comment avoir des relations interpersonnelles avec les autres. C'est un danger parce que dans la société, on a besoin des personnes équilibrées. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Alors comment organiser réellement ces cours-là pour que ce ne soit pas un moment de surménage pour les bénéficiaires, mais que ça entre réellement dans un processus d'épanouissement complet de l'enfant?
Il y a un besoin de régulation. Aujourd'hui, les parents font une pression excessive sur l'école. Vous allez voir des écoles aujourd'hui où un élève qui est au coup moins de ne peut pas porter son sac parce que c'est plein de disciplines, c'est plein de livres, c'est plein de cahiers. Vous voyez un enfant qui se développe déjà avec la colonne vertébrale tordue par son sac de classe. C'est tout un problème, ça. Certains veulent se débarrasser des enfants. Certains veulent dire que mon fils a eu le bac à 12 ans. C'est beaucoup de pression sociale du coup. Donc, il faut que les éducateurs jouent leur rôle pour expliquer aux parents que donc, il y a une période pour tout. Le développement intellectuel doit suivre le développement biologique de l'enfant. Les deux doivent fonctionner ensemble. Donc, quand vous faites beaucoup de pression sur le développement intellectuel au détriment du développement biologique, il peut y avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant. Parce qu'à un certain moment, l'apprenant, même sur le plan intellectuel, peut être complètement bloqué.
Professeur Marceline Djemeni Tchamabi, merci.
Merci beaucoup à vous, Agnès.
Dans la suite du journal, près de 60 000 étrangers détiennent actuellement des titres d'entrée ou de séjour sur le territoire camerounais. Plus de la moitié est en situation irrégulière. La task force mise en place par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au cours d'une rencontre s'est penchée ce jour sur d'éventuelles mesures visant à optimiser la collecte de la parafiscalité attachée au visa des contrats de travail des personnels de nationalité étrangère. Tatiana Ibodo.
C'est la 3e réunion de la task force chargée de mener la réflexion sur les modalités d'opérationnalisation des dispositions de la loi des finances relatives aux recettes issues de la position du visa sur les contrats des travailleurs de nationalités étrangères. Janine Ngo Eba, secrétaire technique et directeur de la régulation de la main-d'œuvre au MINEFOP.
C'est un cercle de réflexion pour réfléchir sur les éventuelles mesures qui pourraient être prises pour optimiser la collecte de la parafiscalité qui est attachée au visa des contrats de travail des personnels de nationalité étrangère.
Malgré l'arsenal juridique, il est constaté que près de 60 000 étrangers détiennent actuellement des titres d'entrée ou de séjour sur le territoire national et dont plus de la moitié sont en situation irrégulière.
Le principe de s'acquitter de ces frais de visa est acquis par le secteur privé, mais il y a encore quelques réticences de certains qui prennent des stratagèmes pour contourner la réglementation en vigueur.
Il est question aujourd'hui d'encadrer davantage la législation et la réglementation en vigueur en matière de séjour des étrangers sur le territoire national pour des raisons professionnelles.
Comment réaliser une étude sur le coût de la faim? Question au centre de l'échange ce mardi entre le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, et la représentante du Programme Alimentaire Mondial. Les deux personnalités se sont également penchées sur l'accompagnement du PAM dans le cadre de la lutte contre la faim au Cameroun. Le secrétaire exécutif des synergies africaines était ce jour au siège de l'AFDA, l'organisation non gouvernementale dédiée à l'encadrement des personnes âgées. Jean-Stéphane Biacha a rassuré les responsables de cette structure du soutien de synergies africaines qui envisage la signature d'une convention de partenariat afin de booster son audience au niveau national et international. C'était en présence de plus d'une centaine des principaux bénéficiaires des actions de l'AFDA. Reportage Valérie Aïda.
C'est en chantant et en dansant que les seniors ont accueilli le secrétaire exécutif de Synergies africaines. La séance de travail de l'hôte de l'AFDA a commencé par la visite de différentes structures d'accueil pour la remise en forme des personnes âgées. Jean-Stéphane Biacha a également exprimé sa joie d'être avec ces personnes avant de décliner le véritable objet de sa présence en ce lieu.
La présidente fondatrice de Synergies africaines, Mme Chantal Biya, attache une grande importance à l'assistance aux personnes vulnérables. Et l'AFDA est une expérience unique aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. Ma visite ici, c'est pour consolider ces relations qui vont être suivies très rapidement par la signature d'une convention de partenariat entre Synergies africaines et l'AFDA pour booster davantage l'audience nationale et internationale de l'AFDA.
Et c'est avec joie qu'Elisabeth Monfort, la fondatrice de l'AFDA, a accueilli cette bonne nouvelle.
Grand merci à la première dame, le chef de l'État qui nous a mis sous ces statuts d'utilité publique.
Quant aux aînés représentés par Mme Veuve Loko-Ateba, ils interpellent le gouvernement pour plus d'actions en leur faveur.
Il nous faut des spécialistes qui doivent visiter ici.
Quand on sait que les jeunes d'aujourd'hui seront les personnes âgées de demain, il est essentiel de veiller à un bon encadrement des seniors afin que la vieillesse ne soit pas un fardeau pour la société.
Accompagnement et financement des projets des jeunes entrepreneurs. Une convention en appui à leurs projets signée cet après-midi à Yaoundé entre le ministère en charge de la jeunesse et des institutions financières d'une part et d'autre part avec les centres de gestion agréés. Cet accord de partenariat s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Fatmé Bintou Akoum.
Les projets d'insertion socio-économique des jeunes sont au centre de l'accord de partenariat et du manuel de procédure financière et technique entre le ministère en charge de la jeunesse avec les institutions financières et les centres de gestion agréés. Moulium Mazou, président de la Fédération des centres de gestion agréés au Cameroun.
Cette initiative vise à accompagner les jeunes sur le plan de l'auto-emploi. Surtout, remercier le ministère qui a pensé associer les centres de gestion agréés dans la prise en charge des bénéficiaires.
Un moyen d'accompagnement à la création et au suivi fiscal et comptable des promoteurs sélectionnés pour le programme de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Francine Elemva, chef d'entreprise.
Notre but est de mettre à niveau tous les entrepreneurs qui viennent se lancer parce que généralement ils ont des projets, ils ne savent pas comment tenir une comptabilité, quelle forme juridique même choisir pour pouvoir créer leur entreprise.
La cérémonie de signature de convention de partenariat avec les institutions financières et les centres de gestion agréés est un moyen de pérennisation des programmes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Un projet qui facilite l'accès des jeunes aux institutions financières en vue de développer leurs projets entrepreneuriaux.
Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers l'Observatoire national de la jeunesse, en partenariat avec le Vocational Training Center Jackie Feli Nafak, procède jusqu'au 15 juillet prochain à la sélection de 200 jeunes détenteurs de la carte jeune biométrique et autres chercheurs d'emploi. C'est pour une offre à coût réduit de 70% de formation certifiante dans les technologies développées par le géant mondial du numérique. La sélection concerne les jeunes de 17 à 35 ans ayant un bac plus 3 dans les matières scientifiques. La corruption, un fléau qui freine le développement de l'Afrique. La Commission nationale anticorruption consciente organise un séminaire de renforcement des capacités de ses acteurs sur le terrain, notamment à Bertois. Une activité marquant la célébration de la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Les précisions de Denis Amand, CRTV Est.
Pour cette 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, le thème est édifiant à suffisance. Mécanisme efficace de protection de lanceurs d'alerte, outil essentiel de lutte contre la corruption. En d'autres termes, protéger les lanceurs d'alerte qui exercent dans la norme et rappeler à l'ordre ceux qui s'en écartent. Révérend docteur Dieudonné Massigams, président de la CONAC.
Un thème comme celui-là doit interpeller à la fois les lanceurs d'alerte, mais aussi à la fois les administrateurs, les citoyens, afin que ce qui est dit pour une dénonciation soit vrai et fondé avec des preuves à l'appui.
Pour y parvenir, les directeurs, secrétaires des ministères, présidentes et présidents de cellules de lutte contre la corruption doivent renforcer leurs capacités sur trois axes. La protection des lanceurs d'alerte, la corruption dans la commande publique et le leadership dans le changement des comportements. Révérend docteur Dieudonné Massigams.
Les outiller pour qu'ils puissent être à la hauteur des attentes par rapport à la lutte contre la corruption que nous menons ensemble dans le pays.
La cérémonie d'ouverture, présidée par le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, a connu la participation du recteur de l'Université de Bertois et de plusieurs autorités locales. Bertois, Denis Amand, CRTV.
Développement du groupement Onvan, arrondissement d'Ayos dans le département d'Union Infumu. Le président du comité exécutif, par ailleurs, édile local, Paul Ndongobiko, tient une réunion dimanche prochain, 14 juillet 2024, dès 12h à la chefferie de Bi. Ils sont vivement attendus, les élites, les chefs traditionnels, les responsables locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les présidentes des associations des femmes du groupement Onvan. Hors de nos frontières, la 7e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine vient de clôturer ses travaux à Tunis. Les discussions ont porté sur les finances, les affaires monétaires, la planification et l'intégration économique. Il s'est notamment agi de délibérer sur le thème « Renforcer la coordination des politiques macroéconomiques et sectorielles en Afrique, défis, opportunités et priorités politiques pour une croissance inclusive et un développement durable ». En conclusion, les commissaires de la Commission de l'Union africaine, les ministres et les gouverneurs des banques centrales ont entre autres demandé à la Commission de l'Union africaine d'aider les États membres à faciliter la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement en tant que principe fondateur, comme le stipule le traité d'Abuja. Afin de promouvoir l'intégration régionale en Afrique, de renforcer la coordination de leurs politiques macroéconomiques et fiscales en vue de donner la marge d'action politique nécessaire pour investir dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'industrie et les services, et d'aider les États membres à mener des réformes structurelles appropriées visant à plébisciter des environnements de politique budgétaire et monétaire qui renforce la stabilité macroéconomique, la discipline budgétaire et la lutte efficace contre les flux financiers et illicites. En collaboration avec l'Organisation internationale du travail, la Commission de l'Union africaine devra par ailleurs continuer à fournir un soutien technique aux États membres en vue d'établir et de mettre en œuvre des cadres de politique macroéconomique favorables à l'emploi et élaborer des lignes directrices concrètes qui seront présentés dans le rapport du 8e comité technique spécialisé de l'Union africaine en 2025. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, qui conduisait la délégation camerounaise en Tunisie, ont activement pris part à ces travaux qui se sont déroulés en présence du directeur général de l'Organisation internationale du Travail. En sport. sport, les Jeux olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain à Paris en France. 10 500 athlètes y prendront part. Le Cameroun sera représenté sur 4 disciplines par 6 athlètes. Le sprinteur Emmanuel Essimé et la judokate Richelle Anita Sopi Mbella sont désignés porte-étendard de la Cameroun Olympic Team. La cérémonie de revoir à la délégation camerounaise a eu lieu cet après-midi sous la houlette du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Mouelle Kombi appelle les athlètes camerounais à faire honneur à leur pays. Nous l'écoutons.
La team Cameroun participera aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans 4 disciplines sportives, l'athlétisme, du judo, du tennis de table et de la natation. Ces qualifications ont été obtenues à l'issue de plusieurs compétitions et tournois mondiaux et continentaux de très haut niveau. Le Cameroun a obtenu par le passé d'importants lauriers dans le cadre des Jeux olympiques. La médaille d'argent de Joseph Bessala en 1968 à Mexico en boxe. Celle de bronze de Martin Dongo-Ebanga dans la même discipline en 1984 à Los Angeles. Tous de regrettée mémoire. Les lauriers les plus illustres dans cette compétition ont été obtenus par les Lions Indomptables de football en 2000 à Sydney et par Madame Françoise Mbango Etonet en triple saut d'âme en 2004-2008 à Athènes et à Beijing. Vous devez vous inspirer des prouesses de ces devanciers afin de consolider l'image de notre pays en tant que grande nation sportive à travers les résultats élogieux de ses athlètes.
C'était là le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi. À retenir de ce journal, le Sénat débat d'orientation budgétaire et examen de l'ordonnance du 20 juillet dernier. Au programme ce soir au Palais des Congrès de Yaoundé, travaux supervisés par le président du Sénat, Marcel Gnat Ndifendi. En sport, les athlètes camerounais sur le départ pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique leur souhaite bon vent tout en leur recommandant de faire honneur au Cameroun. 20h31, fin de ce journal. Technique Patrice Bikim. Réalisation Marie-Claire Messier Kopna. Rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noua. Merci. Restons avec la CRTV.